Bonjour Anna à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Alors, on pourrait dire que j'arrive une semaine trop tôt, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la paix. Ah non, deux semaines, non, la joie, la paix. Oui, une semaine trop tôt. Et donc, mais en fait, pas tout à fait, puisque la paix dont nous allons parler ce matin est une paix un peu différente que celle dont on parle lorsqu'on parle de la paix comme fruit de l'esprit. Donc, voilà, finalement, c'est peut-être mieux que ce soit aujourd'hui plutôt que la semaine prochaine. Alors, à l'église, c'est vrai qu'à l'église de Genève, nous avons commencé une série sur l'évangile de Luc cette année. Donc, ce sont les études bibliques qui se penchent sur l'évangile de Luc. Et puis, je vais concentrer la plupart de mes prédications sur l'évangile de Luc aussi, selon ce que l'Esprit aussi nous dit, m'inspire aussi, selon les circonstances, effectivement, évidemment. Alors, c'est sûr que nous sommes quoi, début novembre, bientôt mi-novembre, et je crois qu'on arrive au deuxième chapitre de Luc. Donc, on en a pour plusieurs années, je crois. Mais, nous en étions récemment à Luc, dans le premier chapitre, à la naissance de Jésus. Alors, je suis à la fois en avance et puis en retard. Mais parce que voilà, en général, on lit ces textes au moment de Noël. En général, on ouvre les premiers chapitres des évangiles au moment de l'Avent, de Noël. Et puis finalement, nous avons réalisé en études bibliques qu'il est bon de lire ces textes en dehors de la période de Noël. Parce que même si ça commence déjà, les lire à une autre période dans l'année, c'est aussi un moment où on est un peu plus éloigné des décorations, des festivités, des lumières, de toute l'agitation et de tout ce qui a été ajouté à cette belle fête de Noël, qui en elle-même suffit de ce qui est raconté dans la parole de Dieu. Et nous nous rendons compte, lorsque nous lisons ces textes, en dehors de la période de Noël, à quel point cette naissance, le récit de cette naissance est très humble et très sobre, extrêmement sobre. Il y a très peu de détails. Nous notons quand nous lisons, relisons les évangiles qu'il n'est pas question d'animaux. Et par exemple, il n'est pas question d'animaux, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de... Alors il y a un âne. Est-ce qu'il y a vraiment un âne ? Et il y a pas, donc il y a beaucoup de choses que l'on ajoute, mais c'est l'imaginaire, c'est la tradition, c'est 2000 ans d'histoire qui font cela. Mais c'est vrai que il est bon parfois de juste regarder au texte. Et pourtant, ce n'est même pas dans un texte de l'Évangile que je vous invite à lire ce matin, mais au cas où. Mais c'est parce que nous avons lu ce texte de l'Évangile de Luc, et puis on a vu à quel point cette naissance est racontée dans des termes très simples, très humbles, très sobres. En toute sa simplicité, sa pureté. Mais par contre, ce qui n'est ni sobre, ni humble, ni simple, c'est bien le chant des anges. La multitude des anges de l'armée céleste qui apparaît aux bergers et qui entonne ce cantique « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » C'est cette paix sur la terre qui est annoncée à la naissance de Jésus par les anges. Cette multitude d'anges qui va être le sujet de notre réflexion ce matin. Le prêtre Zacharie, juste avant, le père de Jean-Baptiste, avait déjà parlé de paix à la toute fin de son cantique, en parlant du soleil levant venu pour nous diriger sur le chemin de la paix. La paix. Mais quelle est donc cette paix ? Quelle est la paix que Jésus est venu établir ? Qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Alors aujourd'hui, de plus en plus, on parle de paix. On prie pour la paix en Ukraine, la paix en Corée, la paix dans le monde. C'est un sujet, la paix, qui est très vaste et nous n'en toucherons que quelques éléments ce matin. Mais pour nous aider à répondre à cette question de la paix, quelle est la paix que Jésus est venu établir, je vous invite à lire quelques versets du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, et nous sommes au chapitre 57, et nous lirons les versets 14 à 21. Ésaïe 57, les versets 14 à 21. Voici ce que dit Dieu par la bouche du prophète Ésaïe. En revanche, celui qui cherche refuge en moi héritera du pays et prendra possession de ma montagne sainte. On dira alors préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irritée et que je l'ai frappé. Je me suis cachée dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur les lèvres. Je leur donnerai la paix. Oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Notre Dieu est un Dieu de paix. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de paix. Certes, et même si nous ne le comprenons pas toujours, notre Dieu de paix a permis et permet encore la guerre, des conflits. Et même parfois, il les utilise pour accomplir son plan pour le monde. C'est vrai. Mais il n'en reste pas moins qu'il est un Dieu de paix qui aime la paix et qui déteste la guerre, la souffrance et tous les bains de sang. D'ailleurs, lorsque Dieu a créé le monde, tout était harmonie, tout était équilibre, tout était en paix. Mais après la rébellion de Satan, après la désobéissance d'Adam et Ève, l'humanité entière a été emportée dans le péché, séparée de Dieu, mise immédiatement dans le camp adverse. La paix était brisée. La paix au sein de la création comme la paix avec Dieu. Et la création entière s'est trouvée plongée dans la souffrance. Le monde entier, l'humanité, la création, tout est plongé dans le chaos à cause du péché. Oui, c'est à cause de ces profits criminels que je me suis irritée et que je l'ai frappé. Je me suis cachée dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. À cause de l'orgueil de Satan et de celui des hommes qui écoutent les désirs de leur cœur, la guerre fait rage. C'est l'envie, l'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme de l'homme, le péché qui est la racine de tous les maux, de tous les troubles, de toutes les discordes. Et l'univers entier est troublé. Cela engendre évidemment insécurité, déchirement, mécontentement et insatisfaction. L'univers est troublé car il est détourné de Dieu, car il est dans le camp adverse. Il est en guerre contre Dieu. L'espérance messianique C'est l'attente du Sauveur qui colore tout l'Ancien Testament, était évidemment celle de la venue du Prince de la Paix, de celui qui allait rendre la paix possible, qui allait inaugurer une ère de paix. Voici ce que dit le Très-Haut dans notre texte, par la bouche du prophète Ésaïe. Ce Très-Haut dont l'habitation est éternelle et dont le nom est saint. Voici ce qu'il dit, « J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » Ce Dieu de paix, de sainteté, le Très-Haut, est proche de ceux qui sont abattus et de ceux qui sont brisés. Et il redit dans notre texte son désir de ne pas rester en disharmonie avec nous éternellement, de ne pas rester en conflit, en guerre avec nous. Mais la paix de Dieu, la paix avec Dieu ne pouvait revenir que par un acte de Dieu, un don divin. Seul Dieu pouvait faire en sorte que la paix avec nous soit possible. Car notre esprit, celui qu'il a lui-même créé, était bien trop faible pour réaliser cela, trop faible devant lui. Ainsi Dieu fait cette promesse à son peuple, « J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix, oui la paix, à celui qui est loin, à celui qui est près. Et je les guérirai. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu a tout fait. Lui-même, il a tout fait lui-même pour restaurer la paix, paix sur la terre. Accorder la pleine consolation, réaliser la pleine guérison, la paix, la consolation et la guérison à celui qui est loin et à celui qui est près. Celui loin ou près qui s'humilie devant lui. Alors l'apôtre Paul cite ce texte de « celui qui est loin, celui qui est près » pour en particulier désigner ceux qui étaient les juifs qui étaient près et les non-juifs qui étaient loin, qui étaient tous réconciliés avec Dieu, en paix avec Dieu. Mais c'est aussi celui qui est loin, celui qui est près de lui. Il veut qu'il s'humilie devant lui afin de faire la paix avec lui. Et donc oui, le peuple juif attendait celui qui leur apporterait la paix. Et lorsque Jésus naît, c'est une époque en quelque sorte qui est considérée comme une époque de paix. C'est l'époque de la Pax Romana. Et c'est Auguste qui était empereur à Rome. Il était l'empereur de tout l'Empire romain dont la Judée fait partie. Auguste était le fils adoptif de Jules César et il est devenu empereur après une guerre civile sanglante. Et en déclarant l'Empire romain, il a annoncé lui-même qu'il avait apporté la justice et la paix dans le monde. Et même les gens disaient de lui qu'il était le sauveur du monde. Il avait apporté la paix. La Pax Romana, la paix de Rome, une paix civile, que Auguste cherchera toute sa vie à maintenir et à réorganiser. Alors il est vrai que cette Pax Romana a représenté une nette amélioration pour les habitants de tout l'Empire. Et c'est pendant 200 ans qu'il y a cette sorte de paix, sans pour autant nier qu'il y a eu des conflits de temps en temps dans l'Empire, et en particulier aux frontières. Ce n'est pas une absence complète de conflit, mais il y a un calme qui est apprécié. Et figurez-vous même que Pline l'Ancien, un historien du 1er siècle, a écrit au sujet de César Auguste et des Romains, « Puisse être éternel ce bienfait des dieux qui semble avoir donné les Romains au monde comme une seconde lumière pour l'éclairer. » Donc c'était l'ambiance de l'époque. Que Auguste était le sauveur du monde, qu'il avait apporté la paix, que c'était Rome, que les dieux avaient donné Rome au monde comme lumière du monde. Et pourtant, En plus, nous savons que cette paix était une paix imposée et qui était préservée tant que les peuples occupés acceptaient de payer l'impôt et d'être contrôlés par l'armée romaine. Il ne s'agit pas non plus d'une paix sociale. Les inégalités restent criantes. Auguste est alors l'homme le plus puissant du monde connu. Il est vu pour beaucoup donc comme un sauveur, comme un artisan de paix. Et pourtant, les Juifs en Palestine et bien d'autres ne s'y trompent pas et attendent toujours leur Messie, leur sauveur, celui qui rétablira la justice, celui qui rétablira l'indépendance et la liberté de leur nation. Le royaume du Messie qu'ils attendent va être certainement pour eux un royaume militaire et politique. Ils ont appliqué les promesses de l'Ancien Testament à leur vie matérielle, temporaire, présente, à cette situation d'occupation qui leur était insupportable. Ils attendaient celui qui rétablirait leur nation en rang de peuple, au rang de peuple choisi, au rang d'une nation supérieure, élue. Et le futur qu'ils attendent, auquel ils aspirent de tout leur être, n'est pourtant pas le futur promis par Dieu. Ce n'est pas ce dont ils ont fondamentalement besoin. Ils n'ont pas besoin d'une paix civile, ils n'ont pas besoin d'une victoire militaire, ils n'ont pas besoin d'un empereur puissant. Ils ont besoin, et nous avons besoin, de la paix avec Dieu. Ce dont les Juifs, mais aussi les Romains, les barbares même à l'extérieur de l'Empire, et tous les hommes du monde entier ont besoin, c'est de la paix avec Dieu. Pas de cette Pax Romana qui permet le développement de leur confort, qui permet une vie paisible et calme, faite de travail, de pain et de jeu, une paix favorisant le développement du commerce. Non, ils ont besoin fondamentalement, et tout homme a besoin de la paix avec Dieu, cette paix, ce fondement qui rend tout le reste possible. Et c'est ce que Christ, véritable lumière du monde, est venu faire en venant éclairer les ténèbres. Et c'est ce qu'il est venu pour nous offrir. Il est venu nous offrir cette paix avec Dieu. Cet enfant naît dans des circonstances des plus ordinaires, loin des puissants, loin des riches, loin des personnes les plus populaires. Cette véritable lumière du monde, ce véritable sauveur du monde, ce véritable prince de la paix naît dans un petit village. À l'opposé d'Auguste, le suprême et divin empereur qui déborde de richesse et de puissance et de gloire humaine, Jésus naît tout simplement. Par contre, l'annonce de sa naissance se fait dans un concert de la multitude des anges des cieux. Des milliers d'anges chantent sa naissance. Quelle glorieuse nouvelle ! Parce que c'est en Christ que l'humanité va pouvoir être réconciliée avec Dieu. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui permet la paix avec Dieu. L'homme pécheur doit faire la paix avec Dieu. L'inimitié liée au péché étant ôtée par le sacrifice de Christ. Alors la paix sur la terre, oui, elle est rendue possible lorsque Jésus est venu sur terre. La paix qu'il est venu apporter est la réconciliation avec Dieu. Il s'agit d'une paix spirituelle qui s'étend à mesure que les hommes se tournent vers lui et acceptent le salut offert. Elle n'est pas la paix dans le monde à laquelle aspirent toutes les Miss France et autres candidates au concours de beauté. Ce n'est pas la paix dans le monde. La paix comme le monde moderne la conçoit, l'absence de conflit, l'absence de guerre, l'absence d'effusion de sang espérée par beaucoup. La paix avec Dieu est la paix que Jésus rend possible et nous donne. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jean 14, verset 27. C'est ainsi que Jésus peut dire aussi qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ou que Siméon, un peu après, dans le passage qui suit, dans Luc, annonce que cet enfant apportera en même temps que le salut et la lumière, la contradiction et qu'une épée transpercera l'âme de Marie. C'est bel et bien une paix spirituelle que Jésus est venu apporter, la paix avec Dieu. Évidemment, notre texte d'Ésaïe nous dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. De la même manière, le chant des anges en réponse à la naissance du Sauveur du monde annonce une paix pour les hommes, pas pour tous les hommes. La paix pour les hommes que Dieu aime. Sur la terre, paix aux hommes qu'il aime. En effet, la paix avec Dieu en Jésus-Christ n'est pas donnée à tous. Elle est donnée à ceux qui croient. C'est la foi en Jésus-Christ et en son œuvre qui scelle l'accord de paix. En Ésaïe 59, versets 7 et 8, que Paul cite dans sa lettre aux Romains, dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Car pour connaître la paix, il faut croire. C'est la foi qui nous rend juste devant Dieu et qui donc nous permet d'être réconciliés avec lui. Et de la paix avec Dieu découle la paix intérieure, malgré les conflits du monde. Et Jésus de dire encore, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Oui, de cette paix avec Dieu que Jésus est venu apporter découle la paix intérieure, fruit de l'esprit. La paix avec Dieu, la paix en Christ, est rendue possible par la foi en Jésus-Christ, lui le Fils de Dieu venu sur terre, mort sur une croix et ressuscité. Et ce n'est qu'en ayant la paix avec Dieu que tout le reste devient possible. Et alors nous pouvons faire la paix avec nous-mêmes. Le salut que Dieu nous offre nous libère de toute culpabilité, de toute honte, ou de l'anxiété qui nous paralyse, nous trouble ou nous épuise. Lorsque nous savons que nous sommes en paix avec Dieu, nous pouvons être en paix avec qui nous sommes. Nous pouvons être en paix avec ce que nous sommes. Car Dieu nous voit au travers du sacrifice de son Fils. Parce que Dieu nous a pardonnés, rachetés, sauvés, réconciliés avec lui-même. Soyons bienveillants avec nous-mêmes. Il est souvent difficile de se pardonner soi-même, de se réconcilier avec qui nous sommes, avec ce que nous avons fait, de s'aimer soi-même. Cependant, nous sommes appelés à abandonner cela au pied de la croix, où se trouve toute réconciliation. La paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes. Et puis parce que nous avons la paix avec Dieu, nous pouvons être en paix, vivre en paix les uns avec les autres. Mais par contre, toutes les fois où nous sommes attirés et entraînés par nos propres désirs, les désirs de notre cœur, lorsque nous suivons le chemin que nous indique notre cœur, alors nous mettons cette paix envers nous-mêmes, envers les autres, en danger. La paix avec Dieu et tout ce qui en découle est mise en danger parce qu'il existe des ennemis à notre paix. Et c'est Spurgeon qui dit... qui énumère 5 ennemis de notre paix en particulier. Il y en a 5, dont 2 qui se ressemblent, que j'ai mis ensemble. La première, c'est l'erreur. L'ennemi de la paix, c'est l'erreur, les fausses doctrines, les fausses idées. Les fausses idées que nous avons sur Dieu, que nous faisons de Dieu, ou sur l'homme, ou sur nous-mêmes, ou sur les promesses de Dieu. Et donc nous sommes appelés à nous appuyer avec humilité sur la vérité que nous trouvons dans la Bible, de ce que la Bible dit véritablement, vraiment. Donc l'erreur est source de discorde, source de trouble. Les fausses doctrines, les fausses pensées, les fausses idées que nous avons. Mais que l'Esprit puisse purifier notre esprit, notre intelligence, et nous donne la sagesse de comprendre exactement quelle est la vérité. D'autres ennemis de notre paix sont plus connus, l'ambition, l'orgueil, que j'ai mis ensemble, donc l'ambition et l'orgueil, mal placés. Le fait de nous voir toujours plus grands et plus importants que nous le sommes vraiment, au lieu de vouloir être serviteurs les uns des autres. Parce que nous avons la paix avec Dieu, nous n'avons pas à attendre quoi que ce soit, nous n'avons pas à attendre la reconnaissance des autres, parce que c'est l'opinion de Dieu sur nous qui compte. Donc l'ambition et l'orgueil, mal placés, mal orientés, sont des ennemis de la paix. Après, il y a la colère. La colère. Quelle qu'elle soit explosive, soudaine, ou qu'elle gronde en permanence, cette colère, elle est l'expression de notre insatisfaction et ne peut que produire le conflit et la guerre. Et enfin, l'envie. L'envie qui nous fait voir tout ce que l'autre semble avoir et que nous n'avons pas. L'envie qui nous fait voir l'herbe toujours plus verte dans le jardin du voisin. De ces sentiments, de ces émotions, de ces racines découle la guerre, le conflit, les disputes. Et sont des ennemis de notre paix. Mais si nous sommes véritablement en paix avec nous-mêmes, parce que nous avons la paix avec Dieu, eh bien c'est tout ce qui compte. Nous savons qui nous sommes, nous savons comment Dieu nous voit, ce qu'il dit de nous, nous connaissons notre valeur et nous n'avons pas besoin de voir l'autre, de voir le succès de l'autre, de voir ses idées comme une menace, une ombre à notre bonheur et à notre épanouissement. Nous pouvons marcher ensemble. Alors, moi j'aime bien l'apôtre Paul, parce qu'il dit des choses très bien. Il y a certains versets que j'aurais préféré qu'il n'ait pas dit, qu'il n'ait pas écrit, mais l'apôtre Paul était quelqu'un de très réaliste. Il avait vécu des choses incroyables avec Dieu, il avait une théologie à développer au maximum des capacités de l'entendement humain, mais il était très terre à terre. Et il faut être réaliste, et il était très réaliste. La paix entre nous, à laquelle de nombreux versets du Nouveau Testament nous appellent, est quelque chose qui ne dépend pas seulement de nous, chacun de nous. Et c'est ce que je voulais noter, et que je cite, c'était en Romains 12, 18, il dit bien, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je note ce verset parce que, oui, on parle beaucoup de la paix, de la paix entre nous qui vient de la paix que l'on a avec Dieu, mais c'est vrai que Paul dit bien que si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si cela est possible, car tout ne dépend pas seulement de nous. Donc c'était juste une petite note dans la mesure où cela dépend de nous. Vivons tous en paix. Cela n'est pas pour autant une excuse pour ne pas faire notre part, de ne pas agir, pour ne pas prendre notre responsabilité dans cette attitude paisible et cette œuvre de paix dans l'Église et dans le monde. Alors les anges chantent, le chant éclate, le Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et sur la terre paix pour ceux qu'il aime. Lorsque Jésus naît à Bethléem, la gloire est rendue à Dieu qui est dans les cieux très hauts et la paix descend sur terre. Pour ceux qui lui appartiennent ou ceux qui lui appartiendront bientôt. Il n'y avait pas de paix possible sans Jésus-Christ, notre glorieux Sauveur. Et la gloire de Dieu est l'essentiel de notre vie. À Dieu soit la gloire, toute la gloire. Lui qui a rendu possible la réconciliation avec son peuple par son Fils. Jésus-Christ a ouvert le chemin de la paix. Il a inauguré effectivement le royaume de paix où nous sommes entrés. Et il a signé avec nous un traité de paix par son sang. Il a signé l'accord de paix. Et dans l'histoire, tous les accords de paix sont des temps importants, des temps d'espoir, où la paix est possible. Eh bien, Jésus a signé cet accord de paix par son sang. Il l'a scellé. Le psaume 85 chante les louanges du Dieu, le louange du Dieu de gloire et de son royaume. À partir du verset 9, il dit « J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité pousse de terre et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. » Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Et nous sommes sur ce chemin de paix, plaçant nos pas dans celui de notre Maître, en attendant la paix totale, parfaite, où le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Oui, cette paix sera complètement effective entre tous les hommes sur la nouvelle terre lorsque Jésus sera revenu pour rétablir sa création, qui sera également en paix. Alors la paix avec Dieu, la réconciliation avec notre Créateur, le Très-Haut, lui qui est proche de celui qui est brisé, proche de celui qui est humble, proche de celui qui souffre. Cette paix, est-ce que nous avons tous, chacun de nous, accepté de déposer les armes et de nous en remettre à lui? Est-ce que nous avons accepté de nous emparer de la main que Dieu nous tend pour sceller l'accord et faire enfin la paix? La paix avec Dieu. Qu'est-ce que ces mots évoquent en vous? Nous avons la paix avec Dieu. Le pardon de nos péchés. La paix avec nous-mêmes. La paix avec nos circonstances. La paix avec les autres. Une paix qui découle du pardon, une paix qui découle de la réconciliation, de la guérison, une paix spirituelle, une paix intérieure, un repos en Dieu. Faire la paix avec Dieu est le fondement qui rend toutes les choses possibles. La paix avec Dieu qui a choisi de nous pardonner. Cette paix change notre vie. Il est bon de prier pour que Dieu ait miséricorde, pour qu'il ait pitié des nations qui sont au milieu des guerres, au milieu des famines, au milieu des dictatures et de l'injustice. Car Dieu prend pitié des humbles et il n'est pas sourd à leurs appels. Il a compassion, notre Dieu. Il a compassion de ceux qui souffrent. De ceux qui souffrent de l'injustice, du désordre, le désordre de ce monde troublé. Il a compassion de ceux qui font appel à lui. Il est bon de continuer à prier pour que les hommes prennent les bonnes décisions et fassent ce qui est moralement bon. Il est bon de prier pour les autorités, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Mais la paix que Jésus est venu apporter transcende tout cela. Il est venu apporter la réconciliation avec son Père, afin que nous soyons réconciliés avec lui, que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes et que nous soyons réconciliés les uns avec les autres. Nous voulons vivre de cette paix avec Dieu. Nous sommes en paix. Je vous invite à prier. Père céleste, nous te remercions, car tu es un Dieu de paix, un Dieu de justice, un Dieu d'amour et de compassion et de bonté, un Dieu qui te réjouit de la paix qui est rendue possible entre toi et nous, en Jésus-Christ. Oui, nous te remercions pour ton Fils qui est venu réconcilier toutes choses avec toi. Nous avons la paix. Nous vivons dans ce temps de paix et d'espoir, d'espérance. Nous sommes entrés dans ce royaume de paix. Et merci parce que ainsi nous pouvons faire la paix avec nous-mêmes et être libérés de toute condamnation, de toute honte. Fais de nous, notre Dieu, des artisans de paix. Oui, dans la mesure du possible, nous voulons te servir et nous voulons faire la paix les uns avec les autres, vivre en paix. Afin que ton Église soit une lumière pour ce monde, une lumière paisible. Dans ce monde qui se déchire, qui s'écartèle, qui se détruit, dans ce monde qui souffre, nous voulons proclamer ce message de la paix sur la terre. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, et pour ceux que tu aimes. Oui, nous voulons proclamer ce message de paix à nos voisins, à nos collègues, à nos enfants, à tous ceux que nous côtoyons autour de nous. Oui, que ce message de paix et d'amour, ce message lumineux d'espérance, soit visible par tous, pour la gloire de ton nom. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, pour toujours et à jamais. Amen.